Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes réunis pour parler pendant une petite heure de la vaste et immense et très compliquée question du steampunk, alias l'esthétique de la machine. Et nous sommes réunis pour en parler dans une équipe composée en, je serais tenté de dire, en 2-1-1. 2-1-1, il y a Karine Gobled, qui est donc la représentante de l'érudition, l'auteur du guide de l'Uchronie, qui sera là pour vérifier qu'aucun de ces messieurs ne dira de bêtises. Donc elle va avoir du travail. Juste à ma gauche, le deuxième 1, donc Lionel Davoust, écrivain de science-fiction, entre autres, qui est là pour être notre candide et nous apporter son regard innocent sur la question du steampunk.
Innocent, moi.
Et enfin, notre 2, avec Olivier Gechter et Johan Elio, qui sont là pour nous parler de leur propre expérience d'écrivain, ayant produit tous les deux des romans steampunk. Je serais tenté de commencer par Karine, histoire de lui poser d'emblée la question qui fâche et de pouvoir nous situer tous et savoir où nous nous situons et savoir d'où on parle. Histoire de se demander quel est le lien entre le steampunk, l'Uchronie et la machine. Histoire de tracer quelques grands traits qui positionneraient tout le monde.
Alors, quelques grands traits. L'Uchronie, c'est prendre un point de divergence dans l'histoire et réécrire l'histoire, que ce soit la grande histoire ou la petite histoire. Ça, c'est facile, c'est l'Uchronie. Le steampunk, on va dire que c'est le cousin de l'Uchronie, dans le sens où on prend un point de divergence, on réécrit l'histoire, on y met en fait la révolution industrielle qui arrive beaucoup plus tôt que ce qu'on a pu connaître, et on a un développement des sciences, on a un développement des techniques, on a un développement des machines qui arrive beaucoup plus tôt, et c'est le futur. Le steampunk, c'est l'Uchronie, enfin c'est pas l'Uchronie, le steampunk, c'est que se serait-il passé si le futur était arrivé plus tôt, hein. Donc typiquement à Londres, dans le brouillard, sous la reine Victoria, ou avec beaucoup de machines à vapeur, beaucoup d'ordinateurs avant l'heure. C'est ni plus ni moins que du cyberpunk transposé dans le passé, hein. Donc avec ses grosses machines, ses réseaux et ainsi de suite. Est-ce que ça situe ?
Impeccable. Quand tu as écrit « La lune seule le sait », nous sommes juste avant les années 2000, d'accord ?
Oui, écrit en 99. Ah, oui. Oui.
Alors, à une époque où le mot steampunk était loin d'occuper les grands titres de la presse nationale.
Oui, ce qui est d'ailleurs toujours le cas, hein, soyons réalistes. Mais surtout à tel point que moi-même, je l'ignorais complètement. On m'a appris après coup, d'ailleurs tu en es largement responsable, ce qu'était le steampunk, et j'ai réalisé, bien après la parution de ce livre, qu'il s'affiliait plus ou moins effectivement à ce courant, ce sous-genre spécifique de la science-fiction. Ce qui m'intéressait moi, au départ dans ce livre, je l'ai construit à partir d'un événement historique, la Commune de Paris, parce que simplement en tant qu'ancien prof d'histoire, j'estimais qu'il était largement, enfin qu'il est d'ailleurs toujours très mal enseigné et très mal connu, cet événement. Ensuite, je me suis intéressé à certaines figures historiques, comme Louise Michel, et j'ai ensuite construit le reste de mon histoire de science-fiction autour de ces personnages. Et par la force des choses, bien, j'y ai adjoint un nombre de machines à vapeur et autres, et ensuite pour des extraterrestres. Et donc tout ça a donné un grand mélange, pour ne pas dire un grand n'importe quoi, scientifique, historique, etc. Et voilà, après coup, j'ai découvert qu'il s'agissait de steampunk. Mais je connaissais juste à ce moment-là, j'avais juste lu les quelques romans fondateurs qu'on cite habituellement, Powers, Jeter, Blaylock, voilà, mais sans savoir de quoi il s'agissait.
Et justement, là, ce qui m'intéresse, c'est que toi, quand tu as écrit, tu étais en totale liberté par rapport au genre, par rapport à ces codes, ou même par rapport à ces stéréotypes. Quand on pense steampunk, maintenant, il y a beaucoup de clichés qui surgissent, qui révèlent la maturité que prend le steampunk, mais aussi les risques qu'il peut rencontrer, de tomber dans le bégaiement du stéréotype, du corset, de la brume,
des
gros boulons partout.
Du cuivre.
Alors même si c'est vrai que c'est dès lors qu'on choisit d'explorer, enfin d'une manière ou d'une autre, une partie du 19e siècle, je dirais que c'est quasiment impossible d'échapper de toute façon, au moins pour ce qui est du décor, à la machine, à la grosse machine, à ses boulons, etc. Pour ma part, les premières scènes du livre commencent, on est en 1889, on est dans le moment de l'exposition universelle, donc on est au pied de la tour Eiffel, on est dans la grande galerie des machines. Tout de suite, de toute façon, on est, pour ce qui est, du moins, relève du décor, dans l'ambiance qui est devenue cliché du steampunk. C'est quasi impossible de faire autrement. C'est...
Et justement, Olivier, quand toi-même, donc, tu écris ta série du Baron Noir, tu as pensé à cette notion de cliché ?
Plutôt, parce que... Au départ, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un roman steampunk. C'est en discutant avec un éditeur qui voyait que j'avais dans les mains la version intégrale de L'une seule le sait, hein, merci. Je l'ai pas encore lu, mais il est dédicacé. les piles de lecture sont un peu hautes. Et donc, il me dit, ça fait 10 ans déjà, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Et moi, le seul truc que j'avais lu en steampunk, c'était l'automate mangeur d'opium, qui à la fois m'avait bien plu, mais d'un côté philosophie, ça me gênait, parce qu'étant ingénieur de base, j'aurais pas utilisé la magie dans un roman. Et on me dit, tu pourrais me pondre quelque chose, là, en 3 mois, vite fait, ouais, facile. Et donc, du coup, je pouvais pas inventer. Les clichés, j'aime pas trop ça. Donc, en fait, j'ai repris mon background d'ingénieur. Je suis un peu spécialisé en charpente métallique. Je vais pas mettre des boulons. Hein, le rivet, ça marche mieux quand même. Un petit rivet chauffé, enfoncé à la masse, je sais faire. Bon, voilà. Donc, je suis parti sur vraiment des technologies que je connaissais. J'avais travaillé avec Pierre Lissarag, le fondateur du musée du Bourget, sur Clément Ader. Donc, tiens, Clément rentre dans mon roman. Donc, je connais par cœur le moteur à vapeur de Ader. Je ne vais pas le fabriquer, c'est un peu compliqué. Mais ça m'a permis, du coup, de faire de la technique réelle. Sauf que j'ai décalé le moteur Clément Ader. Il l'a pondu fin 19e siècle. J'ai tout avancé de 30 ans, on va dire. Hein, je l'ai fait faire dans son jeune temps. Et donc, j'ai pris des technologies réelles. J'ai tout décalé. Et j'espère avoir évité ce genre de clichés en me collant vraiment à la technique. C'est-à-dire que tout ce que je mets fonctionne, a fonctionné, ou fonctionnerait si on s'y mettait. Et je n'ai pas mis de corset. J'ai un bouquin sur les vêtements en 1860. J'en ai pas vu tant que ça, des corsets, finalement. Donc, j'en ai pas mis. J'ai pas classé ça à Londres parce que je connais pas Londres. J'y ai mis les pieds une fois. Donc, j'ai fait ça à Paris. Voilà. Donc, à force de faire que ce que je connais, j'ai pris le contre-pied de 2 ou 3 clichés. Enfin, j'espère. Et bon, ça marche plutôt pas mal et ça me donne une. En fait, en restant collé à l'histoire, ben je pense que tu es d'accord avec moi, en restant collé à l'histoire et en prenant que des anecdotes historiques, et donc j'espère pas trop cliché, les moteurs de l'intrigue se mettent tout seuls en place. J'ai rien inventé, quoi. J'invente même pas les personnages, ils sont tous réels.
Voilà, là, je rebondis tout à fait là-dessus. C'est ça qui est formidable avec l'histoire. Elle nous livre tout clé en main. Et on s'aperçoit, donc, s'il arrive que par moment on bloque dans notre scénario, en fouillant tel bio, le personnage, etc., on trouve toujours le petit détail qui va nous permettre de rebondir très facilement. Enfin, c'est du coup humain pour un auteur. Quoi.
Et même à l'envers, je cherchais, alors, dans le deuxième volet du Baron Noir, une personne proche du pouvoir qui aurait été artiste de cirque et si possible acrobate. J'ai mis 10 minutes à la trouver. Et en plus, elle était encore plus près du pouvoir que je pensais. Alors, je ne vais pas spoiler, achetez-le. Il ressort en mars. Hein. Mais quand j'ai vu ça, vous avez les poils tout droit là, et vous vous dites, c'est le destin, c'est bon, t'es en train d'écrire le bouquin qui va bien. Quoi. Le personnage t'attendait.
Alors, Lionel, en tant qu'écrivain de science-fiction, comment est-ce que tu peux, enfin, quel regard tu portes sur cette fascination de la machine, et notamment dans le steampunk, la fascination de la machine visible?
Alors, c'est marrant, tu vois, que tu me dises d'entrée de jeu que j'étais le candidat, parce que moi, j'étais toujours persuadé que je faisais du steampunk. Sauf que justement, en fait, toute cette esthétique dont on parle avec les clichés, je trouve que c'est cool. Et que j'ai tendance à bien aimer justement jouer avec les trucs qui me semblent cool. Moi, je suis un peu un drôle d'auteur parce que je suis un peu à la jonction entre la science-fiction et la fantasy. Puisque donc le regard que porter là-dessus, c'est le steampunk. Moi, le premier contact que j'ai eu avec ça, c'était avec un jeu de rôle qui s'appelait Space 1889. Donc, je ne sais pas si peut-être probablement dans la salle, il y en a qui connaissent la série Cosmos 1999. Donc Space 1889, c'est pareil mais 100 ans avant, et l'Empire britannique envoie des vaisseaux à vapeur dans l'espace parce que la fameuse théorie de l'éther fonctionne. Donc pendant longtemps, moi je pensais que le steampunk, ça se définissait comme la science-fiction basée sur une science dont on sait qu'elle n'existe pas, qu'elle a été réfutée depuis. Donc il y a une espèce de côté un peu romantique, une vision romantique ancienne de c'est ce qu'on a. Il y avait toute une mouvance aussi, on s'est un peu tombé un peu en désuétude, mais on parlait de rétrofutur à une époque. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus la machine devient visible. On a des voitures qui sont devenues de plus en plus rondes, de plus en plus petites. On est dans les tendances technologiques actuelles où la machine et la technologie se dissimulent le plus possible. On efface les interfaces de plus en plus avec des commandes vocales. On cache les choses au maximum de manière à ce que ça opère finalement par magie. Et je me demande si la fascination pour la bonne grosse machine qui dit ce qu'elle est ne découle pas un peu d'une espèce de fascination nostalgique pour un temps où la technologie se présentait en tant que telle, disait ce qu'elle est. Disait je suis une grosse automobile, je suis une grosse moto, je suis un gros ordinateur avec des coins carrés et du plastique beige. Et ce qu'il y a un côté rassurant quelque part, je pense, d'une technologie sur laquelle qu'on comprend en fait finalement. Donc c'est à la fois un jeu, c'est un jeu mental extrêmement amusant et fort. Et peut-être une forme de nostalgie, je ne sais pas, sur cette machine, cette technologie qui est rassurante parce qu'elle dit sa fonction.
Tout en ayant des thématiques qui peuvent être vraiment des thématiques de science-fiction. Enfin, en steampunk, on peut avoir des personnages qui vont être des personnages augmentés. Je pense à tous ceux qui vont avoir des prothèses, des membres artificiels, des yeux mécaniques. Personnages augmentés qu'on peut trouver dans vos romans.
Oui, tout à fait. Alors pour ce qui me concerne, par exemple, c'est l'empereur, enfin c'est Napoléon III qui, alors j'en ai fait un méchant à la sorte de mix entre Dark Vador et l'empereur de Star Wars. Il a survécu, il est très vieux et il est à moitié machine. Voilà. Le héros du livre qui est Jules Verne, et j'en ai fait une sorte de James Bond de l'époque, lui-même, en cas de besoin, a des gadgets qui lui permettent d'optimiser ses performances, parce que c'est quand même un vieux monsieur à cette époque-là, mais ça fait rien. Enfin voilà, oui, on s'amuse avec tout ce genre de choses.
Oui, et puis les armures, ça c'est toujours une valeur sûre, ça. D'autant que les équilibreurs pneumatiques de maintenant, les mettre dans une armure d'autrefois, ça vous fait un super-héros avec des tuyaux, c'est pas mal.
Ouais. Iron Man.
Voilà. Une bonne mitrailleuse rotative à l'ancienne.
Gatling, tiens.
Voilà, les Gatling, on les répond un peu plus. Voilà, c'est bon. Et puis, on oublie tout le temps aussi que l'air comprimé a été une énergie très utilisée au 19e siècle. Et puis même avant, vu que le fusil à air comprimé était très répandu en Europe, comme arme de guerre, les carabines des chasseurs, l'armée des chasseurs autrichiennes, c'était du fusil à air comprimé, très précis, très puissant. Et on peut imaginer des tonnes de choses en air comprimé, tout à fait réalisables, qui font exotique quand même. Quoi.
Karine, quand on te parle du thème de la machine dans le steampunk ou en uchronie, est-ce que tu as quelques œuvres qui arrivent immédiatement à l'esprit? Quelques références? Si on laisse de côté les œuvres immortelles qu'ont écrit nos invités.
Il y en a beaucoup. Moi, j'aimerais revenir sur La machine à différence, qui est un fondateur du genre, où effectivement, la machine de Charles Babbage, c'est l'ordinateur qui aurait pu fonctionner s'il avait pu aller jusqu'au bout, elle aurait pu fonctionner. Donc on essaie d'imaginer ce que pourrait être une société dans laquelle l'ordinateur arrive à une époque qui n'est pas la nôtre. Voilà. Et ce concept-là, déjà, à la base, je trouvais ça extraordinairement fascinant. C'est-à-dire qu'on met en place une machine, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que c'est toujours la même chose. Une machine, c'est bien, mais à quoi elle sert ? Une machine seule, ça ne veut rien dire. Il faut qu'elle ait une utilité. Donc la question à se poser, là où le steampunk creuse, et là où c'est intéressant, c'est quelle utilité j'ai pour ce type de machine ? Et c'est ça qui moi, me paraît le plus intéressant dans le steampunk. Et on sort, justement, de toute cette quincaillerie qui va bien et qui nous saute aux yeux, parce que la première chose, quand on ouvre un bouquin de steampunk, généralement, la couverture, elle est très jolie aussi, mais elle est bien cuivrée, il y a des boulons partout, il y a des rivets au choix. Et puis, à un moment, on regarde la Tour Eiffel, on se dit, mais la Tour Eiffel, elle est steampunk, en fait. Parce que alors, elle n'est pas machine, mais elle est steampunk. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je prends, quelles machines, quels impacts ces machines ont sur ou quel impact ont l'absence peut avoir l'absence de machines. Je vais prendre une uchronie steampunk mais pas steampunk. On va prendre Nicolas Le Breton, les âmes enchaînées, les âmes envolées, les cœurs enchaînés. C'est il n'y a pas de voiture, ça n'existe pas la voiture dans son monde. Le moteur à combustion n'a pas été inventé, il n'y a pas de voiture. En gros, tout le monde se balade en zeppelin, etc., etc. Il n'y a pas non plus le jetpack qui aurait pu arriver aussi. Ça aurait été vachement plus cool pour le transport individuel. Mais on est sur du zeppelin, donc on est sur des batailles aériennes, on est sur une guerre, parce qu'il va y avoir une première guerre mondiale qui ne va pas avoir lieu au sol, ou tout du moins qui va avoir lieu aussi dans les airs, mais pas avec des avions, pas avec des plus lourds que l'air, mais avec des zeppelins. Voilà. Donc c'est en gros la technologie, la machine, qu'est-ce qu'elle change dans la société ? Ou qu'est-ce qu'elle ne change pas dans son absence ?
Donc la machine qui dépasse la métaphore et qui devient un effet de sens et un effet de questionnement.
Tout à fait.
Je suis content, j'ai compris. Il y a une chose dont je voudrais vous parler, parce que nous sommes à Nantes. Non loin de là, d'ici, il y a les machines de Lille. Et il y a donc la figure tutélaire de Jules Verne, qui, encore une fois, surgit des eaux sur l'affiche du festival cette année. Et Jules Verne, qui a été, entre autres, un écrivain de la machine. Le steampunk joue beaucoup avec l'imaginaire vernien. Et ça serait peut-être intéressant que vous expliquiez votre vision de ce jeu-là, parce que le steampunk n'est pas du tout écrire à la manière de Jules Verne.
Donc, très rapidement, c'est un peu comme... À mon sens, alors après, on peut se poser aussi la question de savoir si le steampunk est une esthétique ou un genre ou un traitement, mais bon, si on aborde le steampunk sous l'angle de la prospective scientifique, aujourd'hui, quand on écrit du steampunk, on se base évidemment sur un passé qui n'a pas existé et pour reprendre l'aspect de la machine, sur un chemin technologique qui n'a pas existé. Si je reprends l'exemple de Space 889, l'éther, c'était c'est une théorie scientifique qu'on a réfutée depuis. Il y a beaucoup en fait de steampunk qui se fonde sur une science dont on sait qu'elle est impossible aujourd'hui parce qu'elle se base sur une théorie scientifique qui a été réfutée depuis. Verne fait de la prospective, fait de la science-fiction sur ce qu'il sait de la science à son époque. Donc c'est je veux dire une énormité, c'est steampunk par rétroaction. La nostalgie de la machine se trouve là. Quand on prend le canon de la Terre à la Lune, si on fait les calculs, on sait aujourd'hui que c'est pas possible, ça marche pas, l'accélération est beaucoup trop forte. À l'époque, ça tient déjà un peu plus, ça tient plus la route. Donc pour moi, tout le jeu, en tout cas sur la technologie du steampunk, se trouve là, et Verne est totalement au cœur de ça, c'est-à-dire une prospective du mieux possible. Et quand on fait du steampunk, on se replace dans des présupposés scientifiques antérieurs.
Pas mieux. Non, mais je vais juste dire, oui, en fait, vu d'aujourd'hui, effectivement, ce brave Jules Verne a ce côté steampunk, vu de son époque, c'est carrément un auteur de hard science, quoi. C'est voilà, puisqu'il se documentait énormément sur les sciences et techniques de son époque et il poussait à son maximum de la logique scientifique possible les effets de ces machines.
Et qui dit machine dit constructeur de machines. Et une des forces du steampunk, et une des choses que j'aime dans le steampunk, c'est sa capacité à reprendre, retrouver, réhabiliter, réenchanter des figures qui sont des clichés totalement éculés. Je pense notamment à la figure du grand méchant qui peut être le savant fou. Un savant fou aujourd'hui, c'est assez naze, mais un savant fou dans un roman steampunk, ça redevient cool, voire même inquiétant. Et Olivier, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de ton approche du méchant, parce que j'ai eu l'impression en te lisant que tu y allais assez franchement.
Et encore, vous n'avez pas tout vu. Hein. En fait, j'ai un vrai super méchant planqué derrière encore. Mais en fait, déjà pour moi, le savant fou ne peut plus exister du tout de nos jours, parce qu'on en a déjà parlé à une autre conférence, hein, donc si je radote, vous m'arrêtez ou pas. Mais maintenant, on est en travail d'équipe, donc on pourrait avoir un chef d'entreprise fou qui mène ses laboratoires à la baguette, admettons, mais on ne pourrait pas avoir le savant fou dans son labo, dans son château, zébré d'éclairs dès qu'il rigole, ça, on l'a plus ça. Donc faire du steampunk, ça a le mérite déjà de pouvoir leur sortir du chapeau. En plus, vous cherchez dans l'histoire des savants fous, on en a, même si c'était peut-être gentil. C'est-à-dire que j'ai des bons savants fous dans mon roman, genre Louis-Guillaume Perrault, l'inventeur de la moto. Il était bien allumé, a priori. Donc, on a un gentil savant fou que je peux utiliser du côté des bons. Par contre, on est aussi à un moment où on aurait pu avoir un savant fou richissime qui, au lieu de faire fabriquer des châteaux en Bavière, mettrait sa gigantesque fortune au service de créer une science électrique pendant que les autres sont encore bloqués sur la vapeur, hein, par exemple. Donc on a vraiment plus de liberté sur le passé pour trouver du savant fou qui va exploiter quelque chose qui est notre quotidien, mais plutôt... Que maintenant, ou s'il faut sortir un savant fou, c'est grotesque parce qu'on va sortir quelque chose pas crédible. On peut rester plus réaliste, paradoxalement, en restant dans le steampunk, à mon avis. Et alors, par contre, évidemment, si vous prenez le Baron Noir, les savants fous que j'ai sont en fait des comparses du super méchant que vous connaîtrez dans quelques volumes si vous êtes sage. Et ceux-là ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils utilisent des armements et je règle souvent mes comptes, hein. C'est des gens qui existent et que je colle dans mes romans en tant que méchant pour pouvoir leur botter le derrière. Donc je peux y aller à fond.
Oui, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, il n'y a plus de ces figures de savants fous. Elles sont peut-être transposées chez des individus. Je pense à quelqu'un comme Elon Musk, par exemple. Grands entrepreneurs. Alors, fous au sens où ils ont des idées terriblement folles et ambitieuses et ils essaient de se donner les moyens, donc l'exploration spatiale privée, Mars, enfin plein de choses, ou certains transhumanistes par exemple, c'est eux qui incarnent aujourd'hui un peu ces figures de savants fous, puisqu'ils effraient quand même par toutes les perspectives qu'ils peuvent ouvrir, même s'il y a des personnages, je trouve ça assez fascinant.
Oui, et puis... un peu, c'est aussi un peu mon dada sur la personnelle, sur la sémantique des machines, aussi la sémantique de la science. Aujourd'hui, justement, comme tu dis, sur le transhumanisme, ce sont des technologies qui sont des outils dont on ne sait pas trop ce qu'ils vont donner plus tard, et que on est dans une espèce de zone moralement ambiguë, alors que le savant fou, comme tu le disais justement, c'est vachement bien, on peut lui botter les fesses à la fin et on sait que tout sera bien, quoi.
En dehors du steampunk, on va retrouver des savants fous dans les personnages de comics, chez les méchants. Là, on va retrouver dans les 4 fantastiques, je ne me souviens plus du nom du Dr. méchant, Doom, voilà, Dr. Doom. Généralement, il va y avoir deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ils ont une palanquée de labos qui travaillent pour eux, où les gens ne savent pas ce qu'ils font exactement. Donc, un labo travaille sur une partie, un autre labo travaille sur une autre partie. Et puis, il y a tout un tout petit groupe de personnes qui va être capable de faire les liens entre eux. Et puis, il y a le fait qu'il est très, 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 très riche. Et effectivement, ça nécessite, pour avoir de la machine et d'avoir de la machine qui puisse être une arme de destruction massive, il faut effectivement un énorme capital. Alors qu'en steampunk, on n'est pas forcément obligé d'être très 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 riche pour inventer l'arme qui va tuer un maximum de monde.
Donc Lionel, tu as évoqué la question épineuse du steampunk entre genre et esthétisme. Pardon. Est-ce que tu peux développer ton idée et après te fâcher avec tes camarades ?
Bah c'est vrai que quand les gens évoquent le steampunk, quand j'étais allé quand on va notamment dans les conventions mondiales ou dans même les conventions de cosplay ou ce genre de choses, tout ce qui est steampunk en général, il y a vraiment toute une esthétique qu'on a un peu évoquée qui est très développée, justement le corset, les goggles, les gadgets chromés ou cuivrés plus exactement, et toute la question s'oppose de est-ce que le steam, c'est un peu comme en France on a tendance à dire l'horreur est un traitement qui se rattache au fantastique, qui est un genre. Le steampunk est-il un traitement ou une esthétique ? Dans l'imaginaire collectif, et moi le premier, le steampunk, avant tout, c'est cette esthétique-là. Et on le voit, notamment, en tout cas, de ce que j'ai l'impression de voir du monde américain, l'aspect historique passe quand même très au second plan. La vraisemblance historique et le jeu uchronique est très secondaire. Du coup, alors moi, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais je pense que il y a toute la partie émergée du genre, c'est son esthétique, et je pense que ça fait un peu passer, ce qui est un peu dommage, un peu passer sous silence, tout le travail uchronique qui va derrière, et qui est d'ailleurs souvent, c'est une dimension dont l'inexistence ou dont l'oubli est souvent assez déplorée par les auteurs, ce qui me semble. Est-ce que vous vous êtes fâché ?
Non, pas du tout.
Non, je te rassure.
C'est vrai qu'on ne voit plus, effectivement, ce qui prédomine dans la vision qu'on a du steampunk, c'est effectivement toute la quincaillerie qui va bien avec. Mais de la même façon, en SF, on voit aussi toute la quincaillerie. On voit les vaisseaux spatiaux, on voit les aliens, et on ne voit pas tout le travail de richesse qu'il peut y avoir derrière. Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le steampunk, c'est que généralement, le côté uchronique, il ressort par le fait qu'on mélange allègrement des personnages réels, mais aussi des personnages de fiction. Et ce qui fait que ça ajoute encore une dimension, c'est-à-dire qu'en plus de dire on va refaire sur une période historique, on va faire des personnages, on va y mettre des personnages réels qui vont faire vraiment ce qu'ils ont fait, etc., etc., on y ajoute des personnages comme Conan Doyle, pas Conan Doyle, mais Sherlock Holmes. On va y mettre, j'ai perdu son nom, l'aventurier, le grand aventurier. Incarné par
Alan Quatermain.
Alan Quatermain ou un autre. On va y mettre des personnages. On va y mettre des personnages qui sont des personnages de fiction et qui vont interagir avec des personnages réels. Et ça va donner quelque chose d'éclairant parce que ces personnages de fiction sont aussi le reflet de la société d'une époque vue par des personnes réelles, vues par des écrivains. Et ça ajoute une dimension supplémentaire dans la capacité d'analyse pour le lecteur, en fait. Et ça éclaire encore plus sous un jour différent l'histoire qui s'est déroulée, la société à cette époque-là. Ça donne une dimension supplémentaire. Et un outil d'analyse supplémentaire aussi.
Dans ce cas-là, se pose le problème qui se pose dans tous les genres de l'imaginaire, mais peut-être d'une façon différente dans le steampunk. Jusqu'à quel point est-ce qu'il faut donner des informations au lecteur, notamment des informations historiques, pour qu'il puisse comprendre et appréhender les choses ?
Ah bah, si quelqu'un a la réponse, parce qu'en ce moment, je transpire très fort sur le troisième volet du Baron, où j'ai vraiment tellement mélangé certains aspects historiques que j'ai déformés avec des aspects que j'ai pas eu besoin de déformer, que sans avoir une bonne connaissance du 19e siècle, il y a des gens qui risquent de croire que je raconte la vérité alors que c'est faux, ou l'inverse. Par exemple, il y a une bataille navale qui a eu lieu à Cherbourg entre deux navires, un sudiste et un nordiste, en vue de la rade. C'est tout à fait réel, j'ai rien inventé. Par contre, j'ai mis des trucs techniques qui auraient pu exister, mais qui n'ont pas existé en fait. Donc là, est-ce que je mets des marque-pages partout pour dire attention, c'est une blague ? C'est compliqué.
Non, c'est la grande question. Est-ce qu'il faut des notes en bas de page ou... Non, mais je pense qu'on écrit une histoire avant tout. Et alors, avec un peu de chance, on va arriver à un point d'équilibre qui fait qu'on pourra avoir deux sortes de lecteurs. Le lecteur qui va pouvoir suivre notre histoire au premier degré sans vouloir se prendre la tête, entre guillemets, et celui qui aura eu les connaissances historiques nécessaires, qui va prendre un plaisir supplémentaire à décrypter le vrai du faux. Mais je pense que c'est une question à évacuer d'entrée de jeu quand on se lance dans ces écritures-là, parce que sinon, c'est insoluble.
Ah, mais tu oublies le lecteur qui vient nous mettre le nez dans nos erreurs.
Alors ça, oui, ça, pourtant, oui, il y a toujours, je me rappelle. Alors ils sont heureusement pas très nombreux, mais il y a toujours effectivement le spécialiste, enfin, du moins vous autoproclamé ou non, qui vient vous signaler que non, là, à telle page, effectivement, tel personnage n'aurait pas pu dire ça parce qu'à telle époque, il a fait ceci, cela. Et oui, très bien, j'en suis content, mais...
la semaine passée, Peter Jackson a annoncé qu'il allait produire une série de films steampunk, les adaptations des romans de Philippe Rive, publiés en France chez Folio Junior. Le premier, c'est Mécanique infernale, qui raconte ni plus ni moins que les villes sont devenues des immenses machines mobiles qui se déplacent à la surface de la Terre et qui s'attaquent et se dévorent les unes des autres. Le steampunk est un imaginaire du gigantisme. C'est même plus la machine qui se voit. On devient, c'est le labo secret du méchant dans James Bond. C'est bigger than life. Quel est l'attrait au-delà du simple wow, le sense of wonder, l'émerveillement, l'attrait dans ce gigantisme qui sent l'huile de coude, la sueur et le gros boulon.
Déjà, cet attrait existait réellement à l'époque, d'après ce que j'ai pu voir, parce que les travaux de la jetée de Cherbourg, c'était un truc de fou. La tour Eiffel, à l'époque, avec les moyens disponibles, c'est un truc de fou. D'ailleurs, tout le monde le disait même à l'époque. Les tentatives percées de tunnels à droite à gauche, c'était des trucs de fou. L'immense gare perdue dans les Pyrénées qui n'a jamais servi à rien, c'est un truc de malade. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de forcer beaucoup le trait. Hein. Il suffit de continuer la logique et de la dérouler. Et on fait l'Hindenburg un peu plus tôt. Et puis, on va pouvoir avoir des machines géantes. Pas besoin de forcer. C'était déjà là.
Oui, je pense qu'il ne faut pas oublier. Voilà, c'était aussi encore l'époque des grands empires coloniaux triomphants. Et il fallait marquer cette puissance-là. Et ça s'incarnait dans les bâtiments, dans les machines, dans ces grands travaux complètement démesurés. C'était aussi un moyen pour les pouvoirs en place, effectivement, de s'affirmer en tant que tel. On est l'Empire britannique, on est ceci, c'est pas n'importe quoi.
Et puis la course aux cuirassés, au point qu'ils ont fait des cuirassés qui, au premier tir de canon, se sont retournés tellement les canons étaient puissants. C'est excellent, ça. On n'aurait même pas imaginé nous-mêmes, quoi.
On dit en préambule, l'histoire donne tout. Là, c'est...
Mais moi, je pense que c'est propre au genre humain de vouloir faire quelque chose qui le dépasse et qui va rester. On parlait du gigantisme, mais on va reprendre un exemple tout bête. Hein. Les cathédrales, pour l'époque, c'était déjà du gigantisme. C'est-à-dire, techniquement, bâtir une cathédrale, c'était extrêmement compliqué. Architecturalement, c'était très, très, très compliqué. Et ça prenait 100 ans, 150 ans, 200 ans, etc. etc. Les pyramides en Égypte, c'est pareil. On est dans l'ordre du gigantisme, et je pense que c'est intrinsèquement lié à ce qu'on est en tant qu'être humain et au côté peut-être immortel aussi. On veut l'immortalité. Non, on veut marquer une époque, marquer de sa présence, marquer de son empreinte, et tous les moyens sont bons, et le gigantisme en est un. Hein, faire une œuvre qui nous dépasse, c'est aussi faire une œuvre qui dépasse l'être humain et qui montre qu'on est aussi un peu l'égal de Dieu. Voilà. Et je trouve que le steampunk, en ça, est assez ambitieux.
Ouais, je suis tout à fait d'accord pour prolonger ce que tu dis. Je pense que pour un public moderne, une technologie, c'est justement cette technologie très gigantesque et très apparente dans ses conduites de vapeur, etc. Déjà, là, le premier aspect qui est qu'elle est très organique. C'est quelque chose dans lequel on peut vraiment, on met les mains dans le cambouis et on peut travailler ce truc-là. Donc il y a un aspect artisanal et manuel qui est plaisant, parce que la créativité, la création de ce genre de machine, du moins quand on se projette mentalement dans le récit, bien sûr, il y a véritablement un aspect, l'approche, les mains dedans, quoi. Donc c'est un truc qui est très organique et qui du coup est un peu plaisant dans un monde peut-être un peu qui se dématérialise. Le deuxième truc qui découle un peu de ça, c'est que c'est une technologie qui compréhensible. En tout cas, il suffit de s'y mettre. Il y a un petit côté un peu, c'est encore le plaisir de l'artisanat. C'est quelque chose que si je me mets dedans, ça va pas être très compliqué. C'est des pistons, des trucs. Je donne trois coups de clé et ça repart. Et le dernier truc, c'est que c'est une technologie qui paraît fiable, non pas au sens où elle tombe jamais en panne, où il n'y a jamais des machines à vapeur et des zeppelins qui explosent pas, mais au sens où elle paraît neutre. C'est un outil qui dit clairement sa forme et qui va être le relais idéaliste, d'une manière idéaliste, qui va être le relais parfaitement neutre de l'intention de l'utilisateur. C'est pas une intelligence artificielle qui va se retourner contre l'utilisateur. C'est pas une manipulation génétique dont on sait pas trop ce que ça va donner. C'est un flingue à air comprimé. Si c'est le gentil qui le tient, et ben ça va être cool. Si c'est le méchant, voilà. C'est une technologie qui paraît pas traîtresse. En soi, en tout cas telle qu'elle est fantasmée, à mon sens, et je pense que c'est quelque chose d'attrayant parce que c'est éthiquement, moralement et psychologiquement, je pense que c'est assez reposant en fait, et ça fait du bien d'avoir un truc qui dit ce qu'il fait et qui est ce qu'il dit.
Oui, avec un côté rassurant, avec l'impression plus ou moins vraie d'ailleurs, qu'on peut effectivement la maîtriser, donc on maîtrise le monde qu'il a.
Tout voilà. À fait.
Ouais. Alors qu'aujourd'hui, moins de d'avoir passé je ne sais combien de doctorats, aller comprendre vraiment comment fonctionnent simplement les machines qu'on utilise aujourd'hui, qu'on ne voit plus forcément, comme tu le disais. Voilà,
c'est... Et puis il y a aussi le fait qu'on peut la réparer soi-même, on peut la faire soi-même, on peut la réparer soi-même. Et ça, c'est aussi prégnant quand on parle de l'esthétique du steampunk. On a les costumes steampunk, la communauté steampunk fait ses costumes elle-même. Elle n'achète pas une paire de lunettes, elle n'achète pas juste un haut de forme, elle customise, elle retravaille, elle coud. Enfin, voilà, on crée son propre costume, on crée sa propre personnalité. Mais c'est je le fais moi-même parce que ce que je fais est le reflet de qui je suis. Et la machine steampunk devient aussi le reflet de qui on est.
Il y a très peu de fabrication en série, en fait. C'est chaque pièce est quasiment fait main dans les récits de steampunk. La moindre machine, elle est faite amoureusement en pièce unique.
Et adaptée à son utilisateur et à son créateur, en fait. On devient le propre créateur de sa
Exactement.
Propre machine.
Si on prend justement un petit peu de recul et un petit peu de champ par rapport à tout ça, quelle vision vous avez sur l'apport du steampunk ? Par exemple, par rapport à l'histoire de la science-fiction ou par rapport à l'imaginaire lui-même. Parce qu'à la fois, on entend le discours disant que le steampunk est une mode. Bon, c'est une mode qui dure depuis 30 ans, donc c'est maintenant une vieille mode. D'autres qui disent que c'est un épiphénomène. Ou alors, voire même que c'est un signe que d'essoufflement de la science-fiction et qu'on se met à bégayer des motifs anciens. Ça, ce sont des choses que j'ai lues. Comment est-ce que vous voyez cette bulle de fécondité qui se nourrit d'un imaginaire rétrofuturiste ?
Si ça peut te rassurer, on dit depuis 10 ans ou 15 ans ou 20 ans que la SF est morte, et moi je trouve qu'elle est encore vachement vivante, hein, et elle n'est pas zombie, donc ce côté-là, c'est pas très 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 grave en fait.
Et puis j'avais vu une étude d'IBM qui disait que c'était en fait un courant de fond et qu'il fallait qu'ils investissent dedans. Je sais pas où ils ont mis les sous, hein, mais à part ça, j'ai pas d'avis.
Non, effectivement, c'est difficile. Parce que tout ce que tu as dit et qu'on lit encore effectivement assez souvent, les faits prouvent que ce n'est plus vrai. Effectivement, une mode qui dure depuis cette trentaine d'années n'en est plus une. Donc c'est pas non plus un épiphénomène. C'est un sous-genre, voilà, qui alors prospère. Non, je pense que le mot exagéré, puisque bon, il est quand même pas aussi prédominant que ça malgré tout dans l'ensemble de la production de science-fiction. Mais voilà, ce sous-genre s'est creusé sa place et il s'est installé, oui, voilà. Et je pense qu'il va continuer son petit bonhomme de chemin, mais.
Sur le côté, est-ce qu'on bégaye, etc. Enfin, l'ASF a toujours, littérature de l'imaginaire de manière générale, ont toujours été une littérature qui repose sur l'intertextualité. Donc, c'est jamais qu'un prolongement supplémentaire d'intertextualité. Donc, il n'y a pas de question de bégaiement, puisque à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faudrait réinventer la roue à chaque fois. Si je reprends mon rôle de Candide, il y a des vilaines personnes comme moi qui sont des auteurs de fantasy qui cannibalent totalement l'esthétique pour en faire des trucs sales avec, sans laissant totalement l'aspect historique de côté. Donc, non, je pense que c'est les littératures de l'imaginaire fonctionnent par référence plus que toutes les autres et que c'est jamais qu'un prolongement totalement naturel de ça.
Il y a aussi un phénomène, c'est qu'en science-fiction, si on va être honnête, il y a un grand courant de la science-fiction qui est on a peur de la technologie, on a peur de la science, on a peur de la machine, et on nous crée des futurs très pessimistes, des futurs noirs, des futurs où l'humanité va disparaître, la planète va mourir, etc. etc. Et le steampunk, et je pense que moi personnellement, je pense que c'est une des raisons qui fait qu'il est toujours aussi vivace, c'est qu'il nous emmène dans un terrain qu'on connaît mieux, parce qu'effectivement, il fait partie de notre passé, et qui est plus rassurant, parce que la technologie, on a l'impression de pouvoir la maîtriser, déjà, et puis parce que tout le décorum qui va bien, ça fait quand même un peu joli, c'est un peu rassurant, et on s'y sent quand même un petit peu mieux. Et ce côté, ça fait le pendant de très, très noir, et très, très sympathique, très, très chaleureux, très, voilà, très aventurier, très, très divertissant aussi, et à mon avis, ça contrebalance aussi un courant de la science-fiction très pessimiste. Et je pense que pour les lecteurs, à un moment donné, qu'on passe d'une science-fiction très, très, très violente, hein, très pessimiste, à cette science-fiction rétro-futuriste très rassurante, c'est aussi une bouffée d'oxygène. Et je pense que ça explique le fait qu'il perdure et qu'il va encore perdurer. On a besoin d'optimisme. On a besoin de. On ne peut pas réenchanter le futur ou enchanter le futur, parce que le futur n'est pas enchanteur, mais on peut réenchanter le passé, et le steampunk réenchante le passé.
Et justement, là, tu évoquais le plaisir du lecteur, et j'aimerais poser la question du plaisir de l'auteur, parce que vous avez travaillé quand même dans des genres, des formes différentes. Donc, quel plaisir particulier peut-on avoir à écrire un récit steampunk ?
Mais c'est, je crois, un terme qu'on a employé depuis le début, souvent, c'est le jeu. C'est un grand jeu et un jeu jouissif de se dire que, qu'en fouillant, dès lors qu'on va commencer à ouvrir un livre d'histoire, peu importe, on va découvrir mais mille et une histoires possibles, il y a mille et une ficelles à tirer, et dès qu'on les tire un tout petit peu, ça y est, plein d'histoires arrivent, plein de, ça nourrit tellement l'imaginaire, voilà, enfin moi, et ça reste. Donc maintenant, ça fait un certain nombre d'années que j'écris ce premier livre. J'en écris d'autres qui ressemblent plus ou moins à ce genre-là. Et c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Voilà, je vais replonger dans telle époque, je vais repartir avec tel personnage historique. Et c'est, voilà.
Ouais, c'est vrai que la collection de personnages qu'on peut réutiliser, enfin, dès que je vais pour le travail dans une école d'ingénieurs au CNAM ou je sais pas, et que je tombe sur le fondateur de l'école, je vois, ah tiens, en 1864, ça tombe bien, c'est, le roman est pile poil dedans, il a inventé tel truc qui a permis plus tard le moteur électrique, ouah, trop bon, et après je fais de la recherche, je me découvre qu'il a rencontré un tel, ils se connaissaient tous, derrière, chaque fois qu'on creuse, il y a François Arago qui réapparaît quelque part. Et ça fait un jeu intellectuel. C'est mes mots croisés, en fait. C'est, voilà, je suis en train de chercher le truc qui fait que je peux l'insérer dans mon histoire sans la casser, sans nuire à la réalité. Donc, j'ai un jeu de construction, là, comme ça. Après, l'écriture est sympa aussi, mais ça reste de l'écriture. Mais la construction de l'histoire de façon à coller à mon jeu intellectuel de respect de l'histoire fait que je m'éclate comme un petit fou. Et j'arrive même à relire 5 fois le roman en retrouvant un plaisir à chaque fois de voir que le jeu, il s'est bien, enfin, le mécanisme est bien monté. Et, voilà, c'est de l'horlogerie, ça me plaît.
Alors moi, j'ai surtout l'esthétique. J'ai pas vraiment l'aspect historique dans les livres d'Evan Hegyr, à part peut-être une petite dose de civilisation romaine, mais lointaine. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Il y avait un de mes illustrateurs qui disait qu'en fait, je faisais du roman punk. Le côté, ce que je trouve fascinant, le côté steampunk, c'est un jeu mental un peu différent, mais qui consiste à partir de la magie, en tout cas, ou la technologie magique steampunk bizarre dans les bouquins. J'essaie de la dérouler en partant justement de présupposés scientifiques ou naturels, de règles du monde autres, et de voir ce qui se déroule. Donc c'est un peu le même genre de loisir, mais c'est sur le côté purement machine. Si je pars de telle règle thermodynamique que je bouge, ou de tel présupposé sur la façon dont l'énergie fonctionne, comment ça se déroule, et surtout comment je peux faire pour avoir des mécas qui marchent à la vapeur. Et donc voilà, donc c'est un truc qui se... On voit juste le résultat final dans le bouquin. Mais c'est effectivement, j'aime bien ton expression de mots croisés, c'est exactement ça. Il y a le côté plaisant de se dire qu'on a de l'expérience mentale de dérouler une technologie, et du coup la société que cette technologie forge à partir d'un monde différent, de présupposer d'un monde différent.
J'aurais presque envie de terminer et de vous poser la question des grandes références. Là, histoire de brasser des titres, brasser des idées, des images, des films que vous auriez envie d'évoquer.
les mystères de l'Ouest pour moi. Clairement, c'est.
Le film ?
Non. Oh. Non, mais ben non. La série, avec Lovelace et tout ça, non, c'était absolument. Franchement, je pense que ça m'a marqué durablement. J'étais vraiment pas grand quand j'ai regardé ça. Le talon qui pivote avec le gadget qui fait exploser la porte. D'ailleurs, je crois que je l'ai réutilisé. C'est pas très bien de ma part.
Hein. Je parlais tout à l'heure des trois romans fondateurs. Enfin, même si c'est pas 100% du steampunk, Les Voies d'Anubis, par exemple, voilà, moi, ça a été une claque quand j'ai lu ça au milieu des années 80. Tu vois, on peut écrire ce genre de choses. On peut mélanger l'ère victorienne, l'Égypte des pharaons, les Beatles, machin. On peut faire ça. Voilà, ça a été une sorte de déclic mental pour moi, ce livre.
Sur l'esthétique, comme probablement beaucoup de monde, moi j'ai été nourri entre autres avec la scène du combat contre le calamar géant dans 20 milieux sous les mers, qui voilà, donc image forte sur les influences esthétiques. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui se font notamment dans l'animation japonaise, en fait, où il n'y a pas du tout un questionnement de savoir est-ce que c'est de la SF, est-ce que c'est de la fantasy et tout. On mélange tout ça, c'est pas grave, c'est cool. C'est pas une influence qui a présidé à la naissance des bouquins, mais il y avait une série pour moi qui, sur l'esthétique pure, parce qu'on est vraiment, on est dans un monde différent, il n'y a vraiment pas un aspect historique, il y avait une série qui me semblait vachement intéressante, qui était Last Exile, qui mélangeait des questions d'aviation avec des espèces de gros croiseurs de bataille dans le ciel, presque un peu à l'Albator, on sent l'affiliation, et qui pour moi, au niveau de l'esthétique, était vachement intéressant, et qui sortait aussi quand même du cliché corset, goggles, haute forme.
Non, moi, je garde La Machine à Différence. Voilà. C'est le premier et c'est celui qui m'a fait le plus impression, en disant, tiens, ça pourrait vraiment exister. Voilà, c'est ce côté-là qui est le plus... ce que j'aime dans le steampunk, c'est ce qui pourrait être, ce qui aurait pu être. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, qui m'attire le plus. Après, j'ai une image en termes de gigantisme. C'est le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est un mauvais film, nous sommes d'accord, mais on voit le Nautilus sortir de sur le port, donc sortir de mer, c'est totalement improbable, et on voit Nemo sortir aussi sa voiture, qui est une voiture à la Batman extraordinaire aussi, et ces deux images en termes d'esthétique steampunk qui résument bien ce à quoi on s'attend et qui n'est absolument pas possible. Voilà, c'est ce côté, le steampunk, ça pourrait être ça, mais ça, c'est juste pas possible que ça existe.
Bien, messieurs, dames, je me tourne vers vous. Y aurait-il des questions par hasard dans l'assistance ?
On ne vous voit pas.
Moi, c'était. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais dans l'esthétique steampunk, il y a beaucoup un côté plus bourgeois. Avec les costumes trois pièces, le haut de forme, les corsets pour mesdames. Mais d'un autre côté, il y a ce côté, on met la main dans le cambouis. Alors que, bon, je doute qu'au 19e siècle, les bourgeois mettaient vraiment la main dans le cambouis.
Oh bah si. Non mais. Bah quand on regarde la fortune qu'avait Clément Ader, qui en fait a gagné des millions, même à l'époque, grâce au début du téléphone. C'était un mania des médias, un mania des télécoms avant l'heure, et c'est lui qui a fait avec ses petites mains la plupart de l'avion. Hein. Il avait une équipe derrière, mais il avait tellement pas confiance en eux que c'était très morcelé, et c'est lui qui finissait le travail. Et il a dû remonter des tubes capillaires de 2 mm de diamètre, hein, parce qu'il y en a 30 km dans juste la chaudière. Et après, il est allé monter le truc, se casser la figure avec tout seul. Donc, Louis-Guillaume Perrault, il était réputé pour pratiquement se tuer à chaque fois qu'il essayait une invention. Quoi.
C'est vrai que si on regarde historiquement, oui, tous les grands inventeurs et préférences des machines, c'était ceux qui avaient le temps et les moyens. Donc,
Et un peu la tête ailleurs, parce qu'il y en a certains qui ont testé des choses. Je ne ferais pas ça, moi.
Et c'était avant la taylorisation du travail. Donc, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on était encore dans l'artisanat. C'est-à-dire que l'industrie telle qu'on la connaît maintenant, à l'époque, elle n'existait pas. C'était une invention récente, hein, avec les ouvriers spécialisés d'un côté qui font l'exécution de plans qui ont été faits par des ingénieurs ou des agents de maîtrise, etc. etc. C'était beaucoup plus mélangé à l'autre époque, hein, à cette époque-là.
Par contre, là où je suis un peu d'accord avec ce que j'ai lu, alors vous avez pu voir que je n'ai pas tout lu, hein, mais je trouve que dans les bouquins, livres de steampunk que j'ai vus, ça reste effectivement avec des personnages relativement aisés, etc. On n'entre pas trop dans la misère de Manchester. D'ailleurs, c'est relativement propre, hein. Les murs ne sont pas crades de charbon, il n'y a pas d'épidémie de choléra comme à Paris, il y a eu jusqu'au début du XXe siècle. Donc, on a quand même tendance à enjoliver un petit peu.
On est sur un passé fantasmé. Hein. On est sur un passé qui n'est pas le passé réel, il est fantasmé.
On peut arranger ça.
Une autre question, peut-être.
Comme on voit ces derniers temps, peut-être depuis plus longtemps, on voit beaucoup de chansons, de musique qui est en lien avec le steampunk et aussi d'art juste visuel, des tableaux qui se basent un peu sur les boulons et les corsets ou autre chose. Et du coup, est-ce qu'on peut, on peut étendre donc cette esthétique, vu que du coup c'est une esthétique, donc c'est vraiment aussi les arts visuels. Et est-ce qu'on peut dire en quelque sorte du coup que c'est une sorte de mouvement littéraire, le steampunk?
Je pense que c'est un mouvement
de courant, je veux dire, ouais. Pardon, de courant artistique.
Oui, en fait, il a dépassé. C'est arrivé. Au départ, le steampunk, c'est une blague. Voilà, c'est une blague d'un auteur qui dit moi, je vais écrire du steampunk en réaction au cyberpunk. Donc, il écrit. C'est une boutade. Et puis, ça prend des proportions extraordinaires. À partir d'une blague, on a de la littérature, on a une esthétique, on a des communautés qui vivent ça de manière très très réaliste, très réelle. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens pour lesquels le steampunk, c'est pas juste un truc qui fait joli, quoi. C'est vraiment une partie de leur vie. C'est je fais mes propres costumes, je fais du jeu de rôle, je crée des histoires. Donc ça a vraiment dépassé. Et pour le coup, c'est un mouvement et c'est un courant qui a dépassé l'origine qu'il en avait, quoi. Ça, c'est sûr. C'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est plus possible, quoi.
Je pense que c'est un mouvement qui est par essence transmédia parce qu'il est né presque avec le transmédia. Et je trouve ça assez rigolo que ce soit un des grands mouvements transmédia qui parle d'un futur ancien et fantasmé.
Oui, il y a une pointe d'ironie quand même dans le steampunk. Ouais.
Et aussi le fait que en musique, par exemple, qu'il y a des groupes qui revendiquent l'étiquette steampunk. Hein, on peut penser aux États-Unis. Abney Park, en France, un groupe comme Victor Sierra, donc qui assume l'étiquette et qui disent nous sommes un groupe steampunk et qui crée une forme musicale qui est inédite parce que c'est eux qui prennent l'étiquette. Alors certains vont être plutôt dans un héritage d'industriel, d'autres dans du cabaret, de la performance. Donc on est vraiment dans de la musique, de la, comme tu disais, du mélange et de l'exploration. Hein. Mais le steampunk, par définition, n'est pas une étiquette unique. N'importe qui peut faire du steampunk dans n'importe quelle forme d'expression artistique, du moment qu'il est dans cette promenade joyeuse et ludique d'un passé qui n'a pas existé et que l'on ne souhaite pas forcément qu'il existât.
Alors, quand on est une femme, on souhaite qu'il n'existe pas. Clairement, les corsets, c'est bon, merci, on a donné.
Nous avons le temps pour peut-être une dernière question.
Bonjour, merci. Je sais pas, je connais pas trop le sujet, mais à vous écouter, vous parlez surtout du steampunk comme une revisitation du passé. Est-ce que ça pourrait pas surtout être un moyen littéraire de dénoncer le futur ou l'actuel? Je pense à l'obsolescence programmée, à la surproduction, enfin les sujets sont vastes.
En tant que métaphore, oui, effectivement, ça fait aussi écho, ça peut faire écho à des situations politiques actuelles, souvent le message est clair, hein, mais...
Oui, en plus, les problèmes sociaux des débuts de l'industrialisation, on les retrouve un petit peu chez nous actuellement, quoi, avec le chômage qui a commencé à apparaître, les travailleurs pauvres, etc., donc... on se prive pas, on ne fait pas ça de le centre de l'histoire, parce que le centre de l'histoire, c'est quand même que des méchants se fassent taper par des gentils, mais ça fait partie du décor, quoi.
Bien. Je vous propose que nous les libérions et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Donc, messieurs, madame, merci beaucoup.
Merci.